Radio Okapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame, monsieur, bonjour. Nous parlerons de la lutte contre Ebola avec cette lueur d'espoir. 4 malades guéris ont été présentés hier à Bunia, ce qui porte à 5 le nombre des personnes qui ont pu vaincre le virus grâce au traitement administré. Occasion pour le gouvernorat d'appeler la population à faire confiance aux services médicaux. Nous sommes le 1er juin, c'est la journée internationale des parents. À cette occasion, Radio Okapi est allée à la rencontre des familles, voir à quels défis elles sont confrontées au quotidien pour notamment gérer le foyer et éduquer les enfants. Comme invité, Olive Ambamboula, médecin gynécologue obstétricienne, en marge de la journée internationale de l'hygiène menstruelle le 28 mai, elle appelle les parents à briser le tabou sur la santé sexuelle et reproductive afin de protéger les jeunes enfants. Bienvenue à cette édition du journal. Avant de développer ces titres, parlons d'abord de cette nouvelle. À Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, la soirée d'hier dimanche a été marquée par des scènes de panique au rond-point UPEN, à proximité de l'Université pédagogique nationale. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des hommes armés en uniforme circulant à moto auraient braqué en cambiste avant que des échanges de tirs n'éclatent dans le secteur. Pendant plusieurs minutes, détonations, cris et mouvements de foule ont semé la peur parmi les habitants et les commerçants. Christian Makassi revient sur les faits.
Coup de feu, des habitants fuient et des commerces qui ferment précipitamment leurs portes. La scène ressemble à un affrontement armé. Pourtant, selon les témoignages recueillis sur place, tout s'est réparti d'un braquage.
Ces criminels étaient vêtus d'uniformes militaires de FRDC et portaient des armes. Ils ont braqué notre frère devant nous. Voilà pourquoi nous sollicitons l'intervention des autorités compétentes, notamment celle du président de la République.
Selon le même source, un militaire affecté à la sécurité du supermarché Galaxy aurait riposté, donnant lieu à plusieurs échanges de tirs dans la zone. Malgré l'intensité des tirs, aucun mort ni blessé n'aurait été enregistré selon le témoin rencontré sur place. Après plusieurs minutes de tension, le calme est finalement revenu au rond-point UPEN, mais la peur, elle, reste bien présente dans les esprits des habitants qui espèrent de mesures concrètes pour garantir leur sécurité au quotidien.
Et puis cette bonne nouvelle, annoncée en titre, en Ituri, 4 nouveaux malades d'Ebola qui suivaient des soins au centre médical évangélique CME de Bunia sont déclarés guéris. Ils ont été présentés à la presse hier dimanche. Selon le responsable de cette structure sanitaire, les patients ont bénéficié d'un traitement symptomatique qui a permis leur rétablissement. Ceci porte à 5 le nombre des personnes guéries de ce virus depuis la déclaration de l'épidémie par le gouvernement il y a 17 jours. Martial Kizabiamungu nous en dit plus.
Toutes les personnes guéries sont des infirmiers, dont une femme travaille au centre médical évangélique CME de Bunia. Elles ont attrapé le virus d'Ebola en plein exercice de leur métier. Selon les médecins directeurs de cette structure médicale, les docteurs Calvin Ambitapio, ses survivants, ont été soumis à un traitement de symptômes de la malaria couplé à des antibiotiques, entre autres. Il ajoute qu'après quelques jours d'observation et des prélèvements quotidiens, les derniers contrôles et les résultats ont été déclarés négatifs. Un ouf de soulagement pour le docteur Calvin Ambitapio qui dit, je cite, « Nous sommes très contents de voir qu'une maladie qui n'a ni traitement propre ni vaccin pour le moment peut être vaincue par un traitement symptomique. » Fin de citation. Le docteur Ambitapio reste confiant. Il estime que le nombre de guéris va augmenter les jours à venir. Bunia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Et puis hier, 31 mai, le monde a célébré la journée mondiale sans tabac. Cette initiative de l'Organisation mondiale de la santé est destinée à sensibiliser au danger du tabagisme et à encourager les fumeurs à abandonner cette addiction. Cette année, le thème retenu est « Démasquant les tactiques de séduction, luttant contre la dépendance à l'égard du tabac et contre l'addiction à la nicotine ». Derrière cette consommation se cache une véritable dépendance physique et psychologique qui rend l'arrêt particulièrement difficile. difficile. Le docteur Emmanuel Makasingangiamba, spécialiste en médecine transfusionnelle, souligne que l'arrêt du tabac ne repose pas uniquement sur la volonté du fumeur et nécessite un accompagnement médical adapté capable d'augmenter considérablement ses chances de réussite de sévrage. On écoute au micro de Christian Makasinga.
Le tabac est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Il tue 8 millions de personnes chaque année. Arrêter n'est pas une simple question de volonté parce qu'il y a une dépendance physique et une dépendance psychologique. La dépendance physique est liée à une des composantes tabac qui est la nicotine. Cette nicotine au niveau du cerveau qui active la sécrétion de la dopamine. Cette dopamine, c'est elle qui va vous donner cette sensation de bien-être. Plus on fume, plus on a ces besoins d'en prendre encore plus. Mais il faut savoir que le tabac a beaucoup de conséquences néfastes sur la santé. Il y a des maladies comme des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies pulmonaires, cancers du rein, cancers de la vessie. Et le tabac aussi est la première cause d'infertilité. Comment arrêter? Premièrement, il y a des substituts nicotiniques. À part ça, il y a des thérapies comportementales et aussi il est conseillé de consulter un médecin spécialisé, tabacologue. Cela va permettre un suivi beaucoup adapté. Un fumeur qui est accompagné a 3 fois plus de chances de réussir que celui qui va seul.
À Kinshasa, être parent, c'est relever un défi chaque jour. En marge à l'occasion plutôt de la Journée internationale des parents célébrée aujourd'hui, 1er juin, notre rédaction est allée à la rencontre de plusieurs familles pour capter leur réalité. Éducation, scolarité, santé, alimentation, entre contraintes et espoirs. Parents et enfants se livrent sans détour et appellent à un meilleur accompagnement de la jeunesse. Reportage Ella Chimbalou.
À Kinshasa, être parent, c'est un combat de chaque jour. Gérer les foyers, éduquer, nourrir, soigner, une mission lourde qui demande courage, endurance et sacrifice.
Lorsqu'on est appelé d'être parent, on est obligé de résoudre beaucoup de problèmes à la fois. On est obligé de satisfaire beaucoup de besoins. Tous ces problèmes-là, ça ne peut que reposer sur les épaules d'un parent.
Mais au-delà du matériel, une autre priorité s'impose. Transmettre des valeurs solides aux enfants pour bâtir la société de demain.
Les conseils que je pourrais donner aux parents, c'est de pouvoir transmettre bien sûr les valeurs à leurs enfants pour que ces enfants-là soient utiles à la société.
Et du côté des enfants, la reconnaissance est bien là. Ils saluent les efforts et les sacrifices consentis pour leur offrir un avenir meilleur.
Le plus grand sacrifice de mes parents a été de mettre leurs propres besoins de côté. Mes parents m'ont appris aussi qu'il faut rester digne, même dans le moment le plus sombre.
Deux témoignages poignants qui reflètent les quotidiens de nombreuses familles kinoises et rappellent combien les rôles des parents restent essentiels dans l'avenir des enfants.
Pendant ce travail que beaucoup d'autres font au quotidien, redonner vie à un soulier abîmé, réparer des chaussures usées ou remplacer une semelle en mauvais état, c'est le quotidien donc des cordonniers, souvent exercés dans la rue ou au marché. Ce métier permet à de nombreux artisans de subvenir aux besoins de leur famille grâce à leur savoir-faire. Dans la commune de Mongafula, quartier Monsango par exemple, ils sont plusieurs à vivre de cette activité malgré les préjugés dont elle fait parfois l'objet. Assis au bord de la route, aiguilles, fils, colle et marteau à la main, ils travaillent durement pour gagner dignement leur pain quotidien. C'est un reportage signé Gloriane Lepéa.
Un métier modeste, parfois regardé avec mépris, mais qui reste indispensable au quotidien. Nous sommes au quartier Moussangou, dans la commune de Mongafula, direction Terre Jaune. Les cordonniers trouvés ici travaillent sous le soleil comme sous la pluie, car ils n'ont aucun endroit aménagé pour s'abriter. Le regard que portent certains sur ces métiers ne reflète pas toujours la réalité de ceux qui l'exercent. Pour ce cordonnier, ce travail lui permet avant tout de faire vivre sa famille.
Je pratique ces métiers de cordonnerie. Je paye la maison et subviens aux besoins de ma famille. Mais plusieurs dévalorisent ces métiers parce qu'ils les considèrent comme un sous-métier. Si c'était un travail qui ne procure rien, on n'allait pas le faire. Et si nous le faisons, c'est parce que nous connaissons sa valeur.
Mais le revenu varie aussi selon l'emplacement. Les endroits les plus fréquentés offrent davantage des clients, explique cet autre cordonnier.
C'est un bon travail, mais ça demande d'être dans un milieu où il y a plus de circulation, puisque dans les quartiers, c'est difficile qu'une personne vienne réparer ses souliers.
Un métier souvent sous-estimé, mais essentiel et qui fait vivre plusieurs familles.
Les agriculteurs du Kasaï central font eux face à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'outils de production et l'insuffisance d'intrants agricoles. Ces situations, principalement liées à la faiblesse du moyen financier, freinent le développement de leurs activités et réduisent leur productivité. Pour relever ces défis, le programme national de développement agricole a lancé un mécanisme de subvention appelé Matching Grant. Cette initiative vise à soutenir les petits producteurs et leurs organisations afin d'améliorer la production et accroître les revenus des ménages. Le point avec André Katendenga Lamloumé.
Dans la commune de Nganza, Anakle Kapajika, président de l'organisation paysanne Kashipa Malanda, déplore le manque d'outils et d'intrants agricoles. Selon lui, ces difficultés limitent considérablement la production de ses membres. De son côté, Ntumbaka Lulambi, cultivatrice également basée en Nganza, affirme disposer de vastes terres cultivables, mais manque des ressources financières et de main-d'œuvre pour les exploiter pleinement. Nous sommes déjà âgés. Si j'avais les moyens financiers, je pourrais faire appel aux jeunes pour m'aider. Nous avons des concessions. Nous sollicitons du gouvernement un appui en tracteur afin de faciliter les travaux agricole. Face à ces défis, le Programme national de développement agricole a mis en place les subventions destinées aux petits producteurs, aux coopératives ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises agricoles. Selon Jean Samaba, expert au sein du programme, une enveloppe de 6 millions de dollars est mobilisée pour soutenir l'augmentation de la production et des revenus des bénéficiaires. Les producteurs individuels peuvent obtenir jusqu'à 10 000 dollars avec une contribution personnelle de 10%, tandis que les coopératives peuvent bénéficier d'un financement allant jusqu'à 50 000 dollars avec un apport de 30%. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Parlant infrastructure, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Gemina, chef-lieu du Sud-Oubangui, stagnent. Un acteur de la société civile locale hausse le ton et met en cause l'entreprise Imo Sarkas, chargée de l'exécution de cette infrastructure de base. Serge Linzabé fustige également le silence du bureau central de coordination Besseco, qui ne s'exprime pas sur le retard constaté. Il sollicite l'intervention du chef de l'État en sa qualité de garant de la nation. Explication Blaise Ndongala.
La société civile du Sud-Oubangui constate que les chantiers de réhabilitation de la voirie de Gemena traversent une crise profonde. Serge Linzambe, acteur de cette structure, juge injustifié l'arrêt des travaux par la société Imo Sarkasso, qui selon lui ne devait pas abandonner les chantiers pour des raisons financières.
Entre la poussière et la boue, notre population souffre au quotidien. La société Imo Sarkasso ne peut prendre la province ni la ville de Gemena en otage. Les retards des paiements administratifs ne sauraient justifier l'abandon du chantier. Un opérateur digne de ce nom doit honorer ses engagements envers l'État et les citoyens.
Il exige de l'entreprise un nouveau calendrier rectificatif et réaliste. Cet activiste de la société civile déplore également le silence du bureau central de coordination, organe technique du gouvernement qui devait éclairer l'opinion sur l'état d'avancement des fonds publics déjà décaissés. De son côté, le chargé des communications d'Imo Sarkasso a indiqué que l'entreprise a urgemment besoin tenant compte des 600 000 dollars américains pour acheminer ses engins et matériel encore bloqués au port de l'Onatra et de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Radio Capi a tenté en vain d'obtenir les réactions du ministère des Finances dans ces dossiers.
Restons sur les routes. Traverser les grandes artères de la ville de Kinshasa devient un véritable parcours de combattant pour de nombreux piétons. Sur les boulevards et plusieurs axes à forte circulation, le non-respect du code de la route par certains chauffeurs de voitures, motards et conducteurs de bus expose quotidiennement les habitants à de graves dangers. La population tire ainsi la sonnette d'alarme. C'est un reportage de Magloire Landoumaïmba.
Sur les grandes artères de Kinshasa, le piéton éprouve d'énormes difficultés pour traverser la chaussée. En cause, le comportement de certains chauffeurs, motards et conducteurs de bus qui ne respectent ni les passages ni les priorités accordées aux passants. Plusieurs habitants rencontrés dénoncent une circulation désordonnée.
Traverser le boulevard est vraiment difficile parce que certains véhicules et motos surgissent brusquement dans notre sens pendant que vous regardez déjà de l'autre côté. Cela énerve et met sérieusement la vie des citoyens en danger. Les autorités doivent examiner cette situation de près.
Quand je traverse, les motards venant en sens inverse passent souvent sur une voie qui n'est pas la leur sans respecter la priorité. Je suis donc obligée d'attendre longtemps avant de traverser, ce qui est dangereux, surtout pour les personnes âgées.
Un motard interrogé reconnaît également les manques des disciplines observées sur les routes de la capitale.
Généralement, les motards sont pressés. Rouler quand il y a de l'embouteillage, ça pose vraiment problème. À des fois, c'est suite à cela qu'on préfère prendre l'essence contraire pour aller un peu plus vite.
Face à cette situation, la population demande l'implication des autorités afin de renforcer le contrôle routier et assurer un suivi strict pour protéger le piéton régulièrement exposé au danger.
À Matadi, dans le Congo central, l'accès à l'eau potable reste un luxe pour de nombreux habitants. Cette situation persistante contraint plusieurs personnes à parcourir de longues distances à la recherche de cette ressource vitale. Pour elle, la Régie des eaux n'en fait pas assez pour résoudre ce problème. De son côté, le responsable de la Régie des eaux, lors d'une conférence de presse samedi à Matadi, a attribué à cela ses difficultés à plusieurs facteurs, notamment la vétusté des équipements. On écoute Théodore Kabeangandou au micro d'Élise Kavira.
À Matadi, nous sommes limités à produire suivant les saisons.
Nous, à Matadi, nous sommes limités à produire suivant les saisons, entre 35 000 et 40 000 mètres cubes par jour. Donc, il y a un gap de 30 000 à 35 000 mètres cubes qui manque pour faire face à la demande d'aujourd'hui qui avoisine les 70 000 mètres cubes par jour. Alors, pour augmenter la production, nous cherchons encore des financements. C'est comme ça que depuis 2024, nous avons eu des partenaires qui étaient venus à Matadi qui veulent nous aider à augmenter notre capacité de production d'eau adaptée à la population actuelle. Mais nous avons aussi des obligations pour nous-mêmes les Matadiens. Je parlais des 35 000 mètres cubes en saison de pluie, des 40 ou 42 000 mètres cubes en saison sèche. Parce que nous, comme habitants des Matadi, nous avons des habitudes qui ne permettent pas que quand il pleut, les usines fonctionnent. Tout ce que nous avons comme des ordures ménagères, nous les jetons dans nos cours d'eau. Alors quand il pleut, les machines sont étouffées parce que ces bouteilles-là sont aspirées. Mais en saison sèche, comme la pluie n'émène pas les immondices, là on est un peu à l'abri de tout ça. On fonctionne quand même.
À l'abri de tout ça.
Actualité internationale.
L'Éthiopie sera en urne aujourd'hui pour des élections, l'élection des membres de la Chambre des représentants, scrutin que selon l'AFP, le parti au pouvoir devrait remporter face à une opposition divisée et affaiblie, ce qui va lui assurer un nouveau mandat de 5 ans. Quelques 50 millions de personnes sur une population de 130 millions sont attendues aux urnes. Notez que le système électoral éthiopien permet aux citoyens d'élire leurs représentants qui votent ensuite pour désigner un premier ministre. Les Éthiopiens éliront également les membres de leur conseil régional.
L'invité.
Les parents sont appelés à briser le tabou au sujet de la question relative à la santé sexuelle et reproductive afin de protéger leurs jeunes enfants. Demande formulée par Olive Ambamboula, médecin gynécologue obstétricienne, à l'occasion de la célébration du 28 mai de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Pour en parler, docteur Olive Ambamboula est notre invitée. Elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Docteur Olive Ambamboula, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Santé reproductive, toute une journée dédiée à l'hygiène menstruelle. Les parents aujourd'hui considèrent cela comme un tabou. Comment les enfants doivent faire?
Merci beaucoup. La journée est dédiée mondialement comme étant une journée chargée de l'hygiène menstruelle. Avant c'était un problème tabou, les parents ne pouvaient pas parler de cela. Mais aujourd'hui nous venons briser ce tabou-là. Nous devons donner l'information aux enfants et même à nos mamans qui considérer cela comme étant un tabou. Les enfants doivent être informés. C'est quoi les règles? C'est quoi les menstrues? Ça survient comment? Comment elles doivent se comporter pendant ces moments? Comment elles doivent gérer les déchets post-menstruels? Voilà un peu ce que nous avons voulu faire à ce jour ici.
À l'occasion de cette journée, votre organisation passe dans les écoles et échange avec les enfants des 5e, 6e année primaire. Quel est le message clé que vous donnez aux enfants par rapport à l'hygiène menstruelle?
Nous avons informé ces petites filles que les règles pourront survenir d'un moment à l'autre. Et pendant qu'elles peuvent voir leurs premières règles, qu'elles ne puissent pas paniquer. Parce que c'est un moment de croissance. C'est un moment de transition entre l'enfance et la puberté. Alors, lorsqu'il y a les règles, la femme doit se comporter en adulte. Et la petite fille doit savoir que ça peut survenir, c'est normal. Et elle doit déjà se préparer avec sa bande hygiénique que nous avons démontré comment elle doit porter cela. Et elle doit aller informer sa mère. Si c'est à l'école ou quelque, je ne sais pas où, à l'église, nous avons demander à ces petites filles, lorsque vous voyez votre amie avec une tache derrière la robe, il faut aller calmement derrière elle et lui dire que non, vous avez taché. Et si quelqu'un a un tricot ou un foulard, peut toujours aider la petite fille à lui donner, à couvrir aussi ce qui est comme tabou, à couvrir cette tache de sang. Et après, elle doit aller à la maison pour s'échanger. Nous avons choisi les élèves de 5e et 6e primaire. Ce sont les élèves qui n'ont jamais vu leurs règles. Mais il y a quelques-unes qui ont déjà vu leurs règles. L'importance était de montrer à celles qui n'ont pas encore vu les règles ce qu'est les règles et pourquoi avoir les règles, comment se comporter pendant ces moments. Voilà le message clé qu'on a amené. La majorité des petites filles n'avaient pas encore eu l'information en rapport avec les règles. Nous leur avons donné la définition, nous avons donné le déroulement, comment elles doivent se comporter pendant ce moment et surtout elles doivent savoir que pendant que la femme a ses premières règles, ce que nous appelons les ménages, elle est maintenant prédisponible à avoir une grossesse. Voilà le message clé qu'on a amené à ces petites filles.
Quel danger qui guette la jeune fille pendant cette période?
Pendant cette période, c'est l'utérus qui est en communication directe avec les vagins, c'est-à-dire l'extérieur. Il y a risque d'infection. Donc la bande hygiénique ne doit pas être changée une seule fois par jour. La bande hygiénique doit être changée au moins deux ou trois fois. Les liquides, l'eau qu'on utilise doit être propre. Les récipients doivent être aussi propres. Le milieu, c'est-à-dire les installations sanitaires doivent être aussi propres. Donc il y a un risque accru des infections lorsque cela n'est pas pris en compte.
Aujourd'hui, vous brisez ces tabous. Alors, quel comportement que doivent prendre les parents qui ont des enfants, des jeunes filles dans leur maison?
Les parents doivent communiquer avec leurs filles. Donc, ils doivent vraiment développer l'amitié avec leurs filles. Lorsque la fille n'a jamais eu ses règles, à l'âge de 8 ans, 9 ans, la maman doit commencer déjà à préparer sa jeune fille en disant que d'ici là, il y aura ça, ça, ça. Le jour que vous voyez ça, vous devez venir. Et que pendant que vous avez commencé à avoir ces règles-là, évitez tel comportement avec les garçons. Donc, il faut vraiment un dialogue. Il faut une communication entre les parents ainsi que leurs filles.
Pensez-vous que c'est important qu'à l'école, ces genres de notions soient répétées tous les jours?
C'est vraiment très, très important qu'on puisse commencer à faire cette sensibilisation à l'école parce qu'il y a des celles-là qui n'ont jamais vu. Il y a des garçons qui sont aussi leurs collègues. Une fois que la fille voit ses règles, elle ne peut pas paniquer. Et ses collègues doivent déjà être informés que lorsque nous voyons ceci, c'est qu'il y a un problème. Nous devons chercher vite un foulard, nous devons chercher par exemple un habit pour essayer de couvrir notre femme et l'école doit faciliter les retours à la maison de la petite fille pour aller s'échanger.
C'est-à-dire, les règles pour une jeune fille, c'est un signe de vie.
Oui, oui, les règles, c'est un signe de vie, c'est-à-dire le fonctionnement de l'organisme est normal. Parce que quand il n'y a pas de règles et qu'il n'y a pas de grossesse, par exemple, on peut avoir certaines pathologies qui peuvent empêcher les règles de survenir. Donc, quand les règles sont là, ça prouve d'abord que le fonctionnement de l'organisme se passe très bien. Et ça pousse, la présence des règles signe aussi l'absence d'une grossesse.
Docteur Olive Mamboula, merci.
Merci beaucoup, madame.
Docteur Olive Mamboula, gynécologue obstétricienne. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui venez de suivre cette édition préparée par Jules Mista Bilanda, mise en onde par Jean-Claude Siala pour un début de semaine.